Bonjour, frères et sœurs. Nous avons reçu le mandat d'évangéliser. On le répète souvent, hein, et on le voit dans le livre des Actes, que c'est vraiment d'actualité dans le livre des Actes. On voit comment les apôtres s'y sont appliqués. Ils ont, entre autres par le ministère de Paul, de Barnabas, de plusieurs autres aussi, Apollos, plusieurs apôtres, et les chrétiens aussi qui se répandaient de ville en ville et qui évangélisaient. On a vu l'implantation de plusieurs églises dans toutes les parties de l'Empire romain. Il manque encore un endroit, là, c'est à Rome, où est-ce que Paul veut se rendre. Et Dieu est en train de l'y conduire. Nous avons reçu, nous aussi, le mandat d'évangéliser. On doit le continuer aujourd'hui, d'amener les gens à se convertir à Dieu. Même si parfois, ça griche aux oreilles là, de certains d'entendre dire ça, mais il y a une seule vérité. Comme mon frère Lionel Zamy me le partageait ce matin, il y a une seule vérité, là, c'est vraiment la foi en Jésus. Et ça, on doit le dire sans honte, et on souhaite que les gens se convertissent à Dieu, qu'ils soient sauvés, c'est pour leur bien. Mais on constate malheureusement qu'en Amérique du Nord, comme dans certains autres pays du monde aussi, mais en Amérique du Nord, l'intérêt de la population en général est très faible pour Jésus. Lorsqu'on commence à mentionner Jésus, les gens s'en moquent. Les quelques fois où on entend parler de Jésus à la télévision ou aux radios, habituellement, c'est pour se moquer de Jésus. Et les gens sont, en général, fermés, ce qui est triste pour nous. Mais on sait que c'est Dieu, de toute façon, qui touche les cœurs, qui opère le miracle d'attirer les gens à lui. On voit que, dans le livre des Actes qu'il l'a fait à plusieurs reprises. On voit quand il a touché le cœur de Lydia qu'elle s'est convertie au Seigneur Jésus. Et parfois, il ajoute à notre message de l'Évangile que l'on présente, il ajoute des événements miraculeux, une démonstration de sa puissance par des visions, des guérisons, toutes sortes de manifestations de sa puissance. Mais en fait, il y a, parce qu'on pourrait souhaiter que Dieu en fasse plus de manifestations de sa puissance pour que les gens croient, mais en fait, il y a une manifestation de sa puissance miraculeuse qu'on a tous en commun, c'est nos cœurs transformés. Les vrais croyants ont un cœur qui est transformé par Dieu, et ça, en soi, c'est une manifestation, une démonstration de la puissance de Dieu. Tous les vrais croyants devraient avoir un cœur transformé d'une manière plus ou moins radicale à la conversion et qui continue par la suite d'être transformé par le Saint-Esprit. Dans le passage qu'on étudie aujourd'hui, on est rendu dans Actes 26, Paul va avoir l'occasion justement de témoigner de l'Évangile, et il n'y aura pas de manifestation de puissance de Dieu, pas de miracle qui sera fait devant son auditoire, pas de guérison, pas de parler en langue. Ils ne vont pas avoir une vision de Jésus. Mais il va quand même apporter la preuve de la puissance de Dieu, c'est son propre témoignage, son témoignage de conversion, la transformation que le Saint-Esprit a opérée dans son cœur. Et il va en rendre témoignage à ceux qui l'écoutent. Donc, Paul se trouve, pour qu'on résume l'endroit où on est rendu dans le livre des Actes, Paul se trouve à Césarée, une ville en Judée, à 120 km environ de Jérusalem. C'est un peu comme l'ambassade, ou on peut dire le siège de l'administration de l'Empire romain en Judée. C'est là qu'il se trouve le gouverneur qui a le mandat de surveiller la Judée. Paul est là depuis 2 ans déjà parce qu'il est en prison. Il a été arrêté à Jérusalem parce qu'il était accusé par les Juifs d'être un criminel qui méritait la peine de mort. Si ça tenait seulement à eux, il serait déjà mort. Mais les Romains l'ont emprisonné, puis lorsqu'ils ont appris qu'il était citoyen romain, dans un sens, ils l'ont protégé. Donc, Paul se trouve comme sous la protection des Romains. À plusieurs reprises, il a eu à se défendre contre les accusations des Juifs, déjà contre le premier gouverneur qui était là il y a 2 ans, Félix, il s'est défendu. Félix a jugé qu'il était innocent, mais il l'a quand même gardé en prison. Ensuite, 2 ans plus tard, on a vu la semaine passée qu'il s'est défendu devant Festus, le nouveau gouverneur, celui qui a pris la relève de Félix. Festus a conclu, comme Félix avant lui, que Paul était innocent. Que dans le fond, c'était une question de religion, en fait. Et comme Festus n'y connaissait pas grand-chose à la religion juive, il avait du mal à saisir pourquoi les Juifs en voulaient tellement à Paul, en quoi ce que Paul prêchait était si différent de la religion juive. Il avait du mal à expliquer à César, pourquoi il allait l'envoyer là. Parce que Paul en a appelé à César. Il ne voulait pas être envoyé et livré chez les Juifs, parce que c'est sûr que les Juifs voulaient sa mort à tout prix. Donc, il n'aurait pas reçu un procès équitable. Donc, il en a appelé à César pour être envoyé à Rome. Mais Festus ne savait pas quoi écrire dans la lettre qui allait l'accompagner, pourquoi il était emprisonné. Mais il se trouvait, comme par hasard, mais c'est Dieu qui a permis cela, que le roi Agrippa était en visite chez lui. Et Festus lui a parlé de cela, et Agrippa a dit, « Mais j'aimerais ça l'entendre, moi. » Parce qu'Agrippa était juif d'origine, et il connaissait bien la foi juive, et il allait être plus apte à comprendre c'était quoi le cœur du débat. Mais déjà, Festus avait saisi que ce qui mettait vraiment en colère les Juifs, c'est quand Paul mentionnait que Jésus, qui avait été crucifié, était vivant. Il avait au moins saisi ça. Hein. Et on a vu que c'était ça, le nerf de la guerre, en fait. Donc, Agrippa va pouvoir écouter Paul et finalement tenter de résumer c'est quoi le dilemme pour pouvoir écrire une lettre explicative qui allait accompagner Paul. Donc, lisons cela dans Acte 26, si vous voulez tourner avec moi. Acte des apôtres dans le Nouveau Testament, chapitre 26. On approche de la fin. Hein. Donc, Paul est dans son dernier trajet vers Rome. Acte 26, du début, verset 1. « Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta cause. » Alors Paul étendit la main et présenta sa défense. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à présenter ma défense devant toi au sujet de toutes les accusations des Juifs contre moi. Car tu connais parfaitement toutes leurs coutumes, toutes les coutumes des Juifs, et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter patiemment. Ma vie, dès ma jeunesse et depuis le commencement, s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation, et tous les Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps, s'ils veulent en témoigner. J'ai vécu en pharisien, selon le parti le plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement à cause de l'espérance en la promesse faite par Dieu, que Dieu a faite à nos pères, et dont nos 12 tribus qui rendent un culte à Dieu sans relâche nuit et jour espèrent atteindre l'accomplissement. Mais c'est pour cette espérance-là, ô roi, que je suis accusé par ces Juifs. Quoi, jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints. Après avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Et souvent, dans les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. À cet effet, je me rendis à Damas avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Et vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel, plus brillante encore que le soleil. Et nous sommes tous tombés par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pourquoi de regimber contre les aiguillons? » Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je t'ai apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues, de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai pris au milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Donc, on comprend que c'est Jésus qui parle vraiment à Paul ici. « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, mais à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, puis dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr. Mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. et je rends témoignage devant les petits et les grands, sans rien dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, c'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Comme il se défendait ainsi, Festus dit à voix haute, « Tu es fou, Paul! Ta grande érudition te pousse à la folie! » « Je ne suis pas fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. Le roi est instruit de ces faits. Je lui en parle ouvertement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Encore un peu et tu vas me persuader de devenir chrétien? » Mais Paul répondit, « Que ce soit pour un peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, moi, à l'exception de ces chaînes. » Et le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui siégeaient avec eux se levèrent. En se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Mais cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou les chaînes. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme aurait pu être lâché. » s'il n'en avait pas appelé à César. » Encore une fois, on voit que les Romains constatent à l'évidence que Paul est innocent. Le livre des Actes le répète à plusieurs fois, pour qu'on soit vraiment conscient que s'il est accusé, traîné en cour, enchaîné, conduit jusqu'à Rome, ce n'est pas parce qu'on avait quoi que ce soit à lui reprocher. Tous ceux qui le jugent, sauf les Juifs, constatent qu'il est innocent. Mais le point qu'on va souligner ici dans ce passage ce matin, c'est le témoignage de Paul lui-même. Il n'y a pas eu de miracle, comme on le disait. Vous avez vu que la grande lumière dont parlait Paul n'est pas apparue dans la salle d'audience. Jésus aurait pu choisir d'apparaître devant eux. Dieu aurait pu faire trembler la terre, aurait pu ressusciter un mort devant eux. Dieu aurait pu faire quoi que ce soit. Mais Dieu a choisi que ce soit le témoignage de Paul qui serve à soit convaincre ses auditeurs ou à les condamner, finalement. Qu'ils allaient être jugés en écoutant ce que Paul leur disait et que c'était suffisant pour eux. Donc, on voit trois caractéristiques de ce témoignage-là. C'est premièrement un témoignage qui est personnel. Paul parle de son vécu, de son expérience. Un témoignage qui est personnel, mais deuxièmement, un témoignage qui est centré sur Jésus. Si on ne parle pas de Jésus, lorsqu'on témoigne, on ne témoigne pas finalement. C'est centré sur Jésus. Et troisièmement, on va le voir que c'est un témoignage qui est suffisant pour que les gens soient sauvés ou qu'ils soient condamnés s'ils refusent la parole. Donc, Paul témoigne de son expérience personnelle et il témoigne de sa transformation radicale. Vraiment, il fait preuve d'humilité. Il est devant tous ces grands-là, lui, mais il est très humble. Pourtant, on voit que dans son passé, il était très élevé, dans les positions les plus élevées, là, où le Sanhédrin, qui est le plus haut tribunal, le plus haut comité juif, l'avait mandaté directement, donc il était chargé, il relevait directement du souverain sacrificateur dans son rôle. Mais il avoue qu'il était sincère à cette époque-là, lorsqu'il servait les pharisiens, le Sanhédrin. Il était sincère, il était pleinement investi dans la religion, même qu'il était formé par les plus stricts, les plus rigoureux, là, les pharisiens. Donc c'était le parti le plus rigoureux qui passait le plus de temps à scruter tous les articles de la loi, qui malheureusement qui provenaient pas tous de la parole de Dieu, ils en avaient ajouté beaucoup, là, mais qui s'efforçaient d'être irréprochables à leurs yeux dans les critères qui s'étaient fixés. Mais il était zélé et sincère, mais il avoue qu'il était induit en erreur. Il était gravement dans l'erreur. Et la preuve, c'est qu'il s'est mis à persécuter les chrétiens. Son zèle l'aveuglait au point où il souhaitait la mort des chrétiens. Et ceux qu'il pourchassait à l'époque, il les appelle maintenant, comment est-ce qu'il les appelle au verset 10? Des saints. Wow, c'est toute une marque d'honneur qu'il leur fait. Tous ceux que je pourchassais à l'époque, il les méprisait, peut-être qu'il les appelait les Nazaréens ou les chrétiens, c'était des termes méprisants à l'époque. Mais là, Paul les appelle les saints. Donc, il avoue qu'il était complètement dans l'erreur. Ceux qu'il pourchassait comme supposément des blasphémateurs, c'était eux finalement qui étaient saints. C'était eux qui étaient sanctifiés par Dieu. Les chrétiens sont les véritables croyants parce qu'ils croient non seulement que Dieu a fait des promesses dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils croient à ça aussi, que Dieu a fait des promesses. Et peut-être certains d'entre eux attendent sincèrement leur accomplissement. Mais si les chrétiens connaissent la vérité, c'est parce qu'ils croient dans l'accomplissement qui a lieu en Jésus. C'est pour ça qu'ils ont été sanctifiés. Donc, ils sont les véritables croyants croient non seulement que Dieu a fait les promesses, mais qu'il les a accomplies, qu'il a la puissance de les accomplir. Ce n'est pas que des fables, ce n'est pas qu'une religion. J'entendais l'année passée, je pense, un reportage d'une famille juive d'aujourd'hui, là, et le père montrait comment il pratiquait tous les rites juifs. Puis, celui qui l'interviewait, là, le journaliste, lui demandait s'il croyait en tout cela. Il se dit, ça, je ne me pose jamais la question si c'est vrai ou non. Je ne sais pas si Dieu existe. Ce qui est important, c'est d'être fidèle à la tradition et de la préserver et de la perpétrer à la prochaine génération. Donc, est-ce que les Juifs à l'époque de Paul croyaient sincèrement en Dieu de tout leur cœur? On ne sait pas, mais ils ne semblent pas croire que Dieu peut vraiment accomplir les promesses qu'il a faites. Et Paul, à cause de sa transformation qu'il a subie, toute la haine qu'il avait contre les saints qu'il pourchassait, la preuve qu'il a été complètement transformé, c'est qu'il a joint leur rang. Il est devenu l'un des leurs. Et ça a été fait d'une manière radicale, qui ne s'explique pas d'une manière naturelle. Il les méprisait, et maintenant, la manière dont il en parle, il a pitié d'eux pour la souffrance qu'il leur a fait subir. Il les honore même. Il honore leur courage. Il admire leur courage et leur foi à ces chrétiens-là. Donc, il en parle avec une dignité. Il avoue aussi, et c'est un thème qui revient beaucoup dans ce passage-là, il était dans les ténèbres, complètement dans la noirceur. Il ne pouvait pas voir, c'était vraiment comme un aveuglement spirituel. Et c'est le cas, dans le fond, de tous les hommes sur la terre. Et lorsque Paul est allé dans toutes les nations, il rencontrait des gens de différentes croyances, différentes philosophies, mais il voyait bien que le point commun entre tous ces hommes, c'est qu'ils sont dans les ténèbres. Ils avancent en tâtonnant. Ils savent que Dieu est là, mais ils ne le connaissent pas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on voit toutes sortes de religions, toutes sortes de philosophies. Il y a presque autant de religions et de croyances qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est que la vérité et veulent se l'inventer. L'illustration de cela, c'est comme si on entrait dans une salle complètement noire, qui est sombre, il n'y a aucun grain de lumière. Là. On nous emmène là, on enlève le bandeau, puis on ne voit rien. Peut-être que vous êtes déjà trouvé dans une salle comme ça où vous ne pouvez même pas voir la main devant vos yeux. Là. Puis là, vous êtes dans cette salle-là, puis on vous demande de la décrire, d'expliquer quelles sont ses dimensions, quels sont les objets qui se trouvent dans la pièce. Ça va être seulement des spéculations, hein. Là, peut-être des groupes vont se mettre ensemble pour dire, je pense que la pièce, elle a un kilomètre de long. D'autres vont dire, non, le mur est tout proche. Il y aura toutes sortes d'idées, puis certains vont en débattre, mais en réalité, personne ne va le savoir. Puis même si on s'efforçait de toutes nos forces de voir par nos yeux, c'est impossible s'il n'y a pas de lumière. On a besoin d'une source externe de lumière pour venir révéler les objets qui se trouvent dans la pièce. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. On est complètement aveugle, et malgré tous les efforts qu'on peut faire, on ne peut pas connaître la vérité. La vérité à propos de Dieu, à propos de d'où vient la race humaine, pourquoi il y a du mal dans le monde, où on s'en va. Tout cela, on le découvre parce que Dieu nous le révèle. Dieu nous éclaire. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 2. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Donc, ça vient de Dieu, cette connaissance-là. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc la lumière de Dieu, c'est une autre manière de dire que Dieu vient toucher notre esprit, nous réveiller, le ranimer et nous révéler ces choses à notre esprit pour qu'on puisse les saisir. Et Paul témoigne qu'il a été éclairé. Lui qui était dans les ténèbres, ses yeux ont été ouverts. Et c'est pour cela maintenant qu'il, qu'il travaille à ouvrir les yeux des gens. C'est ça son mandat. Depuis le jour où il a été sauvé, où ses yeux se sont ouverts, il s'est appliqué à ouvrir les yeux des gens, qu'ils passent eux aussi des ténèbres, du monde des ténèbres, au monde de la lumière. Et tout de suite, il fait le lien avec le fait que lorsqu'on est dans les ténèbres, on ne sait pas, mais en réalité, on appartient à Satan, on est au pouvoir de Satan. Donc, passer des ténèbres à la lumière, c'est passer du pouvoir de Satan à Dieu, au pouvoir de Dieu. Les gens ne le savent pas parce que, justement, ils sont aveuglés. Mais ils sont au service de Satan. Satan est très rusé pour se déguiser et les gens ne le savent même pas. Plusieurs croient qu'il n'existe même pas. Mais ils le servent sans le savoir. Et ils se trouvent, en servant Satan, à être ennemis de Dieu. Même les pharisiens qui poursuivent Paul et qui le détestent, qui pensent servir Dieu, en réalité sont ennemis de Dieu, ne sont pas réconciliés avec lui. Et Paul, tout à coup, ça lui a sauté aux yeux. Sa conscience le travaillait. Et il a vu que toutes ces œuvres qu'il faisait avec zèle étaient en réalité des œuvres mauvaises. Il témoigne dans ses lettres qu'il voit ça comme de la boue, des ordures. C'était mauvais ce qu'il faisait. Même s'il s'y appliquait de tout son cœur, ça ne faisait pas de ces œuvres-là de bonnes œuvres. C'était de mauvaises œuvres, de mauvaises actions. Il pourchassait des gens innocents. Il les jetait en prison. Il approuvait la mort de gens qui étaient condamnés à mort pour de fausses raisons. Il dit qu'il approuvait, même il apportait son suffrage. Donc, il approuvait lui-même personnellement la mort. Et on a vu lorsque Étienne est mort lapidé, que Saul était là. Il ne s'appelait pas encore Paul à l'époque. Là. Et il a approuvé la mort d'Étienne. C'était un exemple. Et il arrivait même que lorsqu'il interrogeait, il les passait à la question là, dans les synagogues. C'est sous-entendu qu'il les forçait, donc il les torturait par la violence pour les pousser à blasphémer contre Dieu. Donc, il poussait les gens innocents à blasphémer contre Dieu pour qu'ils soient accusés. Même, on peut supposer que ce n'était pas de véritables blasphèmes qu'ils faisaient. Là. Peut-être qu'il y en a qui ont succombé, qui ont blasphémé contre Dieu, mais les Juifs, le simple fait de dire que Jésus est le Fils de Dieu, pour eux, c'était un blasphème. Jésus lui-même a été accusé d'avoir blasphémé. Mais peu importe ce que Paul ici dénonce, c'est son mauvais cœur. Qu'il prenait quelqu'un qui avait... Il n'y avait aucune accusation contre lui, puis il le poussait par la force à trouver une accusation contre lui, par la haine. Des œuvres mauvaises et qu'il en pleure maintenant. Il les pourchassait même à l'extérieur du territoire d'Israël. Donc, le prétexte qu'ils avaient à pourchasser ces Juifs-là, là, c'est parce qu'ils souillaient le territoire d'Israël. Mais il était prêt à aller même à l'extérieur, dans tout l'Empire romain, là, pour chasser ces chrétiens-là, les ramener à Jérusalem, les condamner, les juger, dans l'espoir qu'ils meurent même. Et c'est pour ça qu'ils se rendaient à Damas. Donc, il était animé de cette haine-là, de cette méchanceté, en route vers Damas. Donc, c'est impossible que juste le trajet ait permis à complètement changer son cœur. C'est pas juste parce qu'il a eu le temps de réfléchir en chemin. C'est vraiment une preuve qu'il apporte là, une argumentation pour dire que ça ne vient pas de lui, cette transformation-là, ça vient de Dieu. Et ça a été une transformation radicale. Il est passé d'un état de pécheur, coupable, c'est ce qu'il dit, hein, parce qu'il dit que Dieu, en Dieu, on peut trouver le pardon des péchés. C'est ce qu'il annonce à tous. Donc, lui-même était parmi ces gens-là. En fait, c'est le lot de tous les êtres humains. Nous sommes tous pécheurs. Et lui-même avoue qu'il était pécheur et qu'il pratiquait des œuvres mauvaises, mais son cœur a été changé. Il pratique maintenant des œuvres dignes de la repentance, donc des œuvres qui sont bonnes. Donc, c'est vraiment, c'est faire le bien, en fait. C'est une manière générale pour dire de faire ce que Dieu approuve, d'être juste. Il était au pouvoir de Satan et maintenant, il est passé vers Dieu. Il est réconcilié avec Dieu. Et ses péchés, non seulement il a arrêté de les pratiquer de manière générale, mais il a même été pardonné pour les péchés qu'il a commis. Il a trouvé le pardon. Donc, il a été sanctifié, lavé. Il est devenu un saint parmi le peuple saint de Dieu. Et il a part maintenant, à cause de cela, parce qu'il a été sanctifié par Dieu, il a part à l'héritage céleste, à la vie éternelle. Et ça, c'est la plus belle chose. Et il en témoigne, même quand il dit à tous les auditeurs, « Je souhaite que vous soyez comme moi, là. » Je ne sais pas s'il chantait « J'ai la paix comme une rivière, j'ai la joie comme une fontaine, j'ai l'amour comme un océan », mais c'est ça qu'il avait dans son cœur. Donc, quand on a la joie, on a la paix, on a l'amour, on sait que Dieu nous aime et on a de l'amour pour nos frères, wow, c'est l'état d'esprit le meilleur qui soit. C'est vraiment le bonheur. Donc, peu importe ce qui arrive, même si on est dans les chaînes comme Paul, il n'y a rien qui va nous empêcher d'apprécier cela, cette joie, cette paix, cet amour. C'est pour ça qu'il va leur dire qu'il souhaite qu'ils soient comme eux. Donc, Paul avait goûté à cela. Il est maintenant, en plus, il goûte à une relation intime avec Dieu et il témoigne qu'il sait que Dieu accomplit son plan dans sa vie et qu'il le protège même. Il dit, « J'ai été jusqu'à ce jour, j'ai subsisté et je rends témoignage devant les petits et les grands. » Grâce à la protection de Dieu. Wow! Donc, ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, dans les semaines dernières, on voyait clairement la main de Dieu agir, même si ce n'était pas mentionné. C'était évident. Mais ici, Paul le confirme. C'était la protection de Dieu. C'est Dieu qui l'a protégé des Juifs qui ont voulu le tuer à maintes reprises et qui sont même allés jusqu'à Césarée pour l'accuser et souhaiter le faire mourir. Qui ont tenté des complots, des attentats, là, de le faire mourir en chemin aussi. Et dans un sens, même s'il est protégé par Rome, il sait que c'est la main protectrice de Dieu qui est sur lui. Ça encore, c'est à cause de sa relation personnelle avec lui. Et Dieu lui donne des occasions d'évangéliser auprès de tous, auprès des petits comme des grands, c'est-à-dire toutes les personnes dans la population. Qui peut avoir accès à toute personne dans la population? C'est vraiment... très improbable. C'est très improbable qu'un homme qui a prêché aux enfants, aux pauvres, aux malades, puisse, quelque temps après, prêcher devant le gouverneur, devant le roi. C'est vraiment une preuve que Dieu est intervenu. Bien, pour ceux qui veulent croire, c'est sûr. Et cette transformation si radicale ne s'explique pas naturellement. C'est une preuve d'intervention de Dieu, à moins qu'il ne soit devenu fou, comme dit Festus. Mais il n'a rien de fou. Donc, Paul parle beaucoup de sa conversion pour justifier ses actions et expliquer pourquoi il agit de cette façon-là aujourd'hui. Mais il n'en reste pas là. Ce n'est pas qu'une expérience personnelle. Même si des gens peuvent être émus par notre expérience personnelle, il veut centrer son message vraiment sur Jésus. Le cœur de son témoignage, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est intervenu dans sa vie. Si Paul a pu voir la lumière tout à coup, c'est parce que Dieu l'a éclairé par Jésus qui lui est apparu. En fait, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu le Fils. Jésus est apparu, il a éclairé. Et quand il a apparu, c'était comme pour montrer d'une manière très significative qu'il l'éclairait. Il a littéralement eu une lumière tellement éblouissante que même Paul a été aveugle pendant plusieurs jours. Et donc, c'était pour montrer vraiment, faire un lien avec son aveuglement spirituel. Mais là, en Jésus, même si c'était en plein milieu de la journée, ça brillait tellement fort, plus que le soleil, que tous ceux qui étaient avec lui même sont tombés par terre. Et Jésus l'a recruté à son service. Donc, s'il y a eu une transformation comme ça, c'est parce que Jésus, tout à coup, a brisé ses chaînes, l'a libéré de l'emprise de Satan et l'a emmené à lui. Il l'a réveillé. Mais on comprend par l'expression que Jésus lui dit, en parlant à Paul, que ça faisait déjà un petit bout qu'il travaillait le cœur de Paul. Paul avait entendu l'Évangile à plusieurs reprises. Il était là lorsque Étienne a expliqué en long et en large comment Jésus accomplit toutes les prophéties, comment Jésus est le nouveau Moïse, il est le chef du nouveau peuple, c'est lui qui conduit son troupeau. Il est le nouveau pasteur, donc Paul avait entendu tout cela. Il avait vu même une église allant jusqu'à 5000 membres à Jérusalem qui s'aimaient, qui prenaient soin les uns des autres. Il était témoin de tout cela, là, et il endurcissait son cœur. Mais Jésus lui dit... Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons. On est moins familier avec cette expression-là aujourd'hui qu'il l'était à l'époque, mais un aiguillon, c'est ça prend plusieurs formes, là. Ça peut être ça que les cow-boys ont derrière leurs bottes de cow-boy, mais à l'époque, c'est par exemple les laboureurs, là, ceux qui labouraient les champs, avaient un bâton avec un pic au bout en métal. Et lorsque le bœuf, souvent les jeunes bœufs qui n'étaient pas encore dressés pour labourer, ils tiraient la charrue, puis quand ils n'aimaient pas ça, là, ils voulaient s'écarter. Là. Mais quand ils s'écartaient, le laboureur, lui, tenait le pic à côté, l'aiguillon. Et s'il s'écartait, il se piquait. Il n'aimait vraiment pas ça. Donc, il réalisait que ça ne servait à rien, finalement, de résister au commandement. Puis que s'il s'écartait, il y avait une force là, à laquelle il ne pouvait pas résister, qui les ramenait finalement dans le droit chemin pour faire un sillon droit lorsqu'il labourait. Donc l'image est bonne. Et si Jésus avait recruté Paul, même avant la fondation du monde, là, et Paul résistait, mais Jésus lui dit, arrête là. Même ce proverbe-là, par la suite, a été utilisé souvent pour dire, c'est une folie de vouloir résister contre sa propre destinée. Il faut accepter le plan que le Seigneur a pour nous. Et Paul, tout de suite, a compris. La conscience se travaillait déjà, il savait que ce qu'il faisait était mal, et il a cédé tout de suite. C'était comme un fruit mûr là, que Jésus a accueilli. Et tout de suite, lorsque Paul répond, il l'appelle Seigneur. Tout de suite, il était prêt à faire de Jésus son maître. Et Jésus est devenu son Seigneur. Donc, Jésus l'a recruté à son service comme son serviteur, son esclave même, mais son esclave bien-aimé. Et Jésus déclare lui-même à Paul, le message qui est au cœur de l'Évangile, c'est que Jésus est lui-même le seul moyen pour les hommes d'être sauvés. C'est par la foi en Jésus seul qu'on peut être sauvé, et la foi exclusive en Jésus qui nous permet d'être sauvés. Et lorsqu'on est sauvé par la foi en Jésus, on obtient le pardon de Dieu, la vie éternelle. Donc c'est de la bouche de Jésus lui-même là, qu'on a la certitude que c'est le plan de Dieu. Et Jésus est lui-même l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament, toutes les attentes où Dieu promettait un salut, non seulement pour son peuple Israël, mais pour toutes les nations. Tout ça se l'accomplit en Jésus. Dieu a promis dans l'Ancien Testament le salut pour l'humanité. Et de quoi les hommes ont besoin d'être sauvés? Mais c'est évident, là, on meurt tous un jour ou l'autre. La pandémie nous l'a rappelé, là. Certains avaient oublié qu'on était mortels, et il y en a eu plusieurs qui sont décédés. Mais même si on n'a pas de la maladie, un jour on meurt de vieillesse. Là. Et Dieu a un plan pour sauver l'humanité de cette fatalité-là, pour nous amener dans un nouveau monde, une nouvelle terre où il n'y aura plus jamais de mortalité. Il veut nous donner une vie éternelle. Et ce salut-là passe par Jésus, la résurrection des morts pour une nouvelle vie. Donc le Messie qu'attendent les Juifs, le Messie qu'attendaient les Juifs à l'époque de Paul et qu'attendent encore les Juifs aujourd'hui, est déjà venu. Le Messie qui devait souffrir pour nous, ressusciter aussi pour nous conduire dans les cieux, mourir pour payer notre dette, nous rendre saints, former un peuple saint pour Dieu, son Père, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. C'est Jésus, ce Messie, que Paul ici appelle le Christ. Jésus est le premier à avoir été ressuscité pour la nouvelle vie, avec ce nouveau corps glorieux. Et un jour, tous les croyants seront ressuscités comme Jésus. Donc, Jésus est le premier de cette nouvelle humanité. Une humanité non seulement de chair et d'os, mais spirituelle. Et tous ceux qui le suivent seront un jour ressuscités comme lui. Mais c'est pour ça que les Juifs, au point ici, dans les Actes, on voit que les Juifs détestent Paul. Et Festus avait raison de voir que c'était ça qui les mettait en colère, la question de Jésus ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité non seulement pour que cette bonne nouvelle du salut soit annoncée aux Juifs, mais qu'elle soit annoncée à tous les hommes sur la terre, même aux païens. Et c'est pour ça que les Juifs ne peuvent pas supporter ce message-là et qu'ils en veulent à la vie de Paul. Pourtant, les prophètes l'avaient annoncé, même que le salut serait pour tous les Juifs. Donc, je répète que ce jour-là, dans la salle d'audience, devant le roi Agrippa, devant le gouverneur Festus, devant tous les nobles qui étaient rassemblés, c'était la grosse gomme de la ville qui était là. Mais Dieu n'a pas accompli de grands miracles sous leurs yeux, une guérison, un tremblement de terre, où il aurait pu même les rendre tous aveugles pour qu'ils comprennent et leur redonner la vue. Mais de toute façon, comme certains m'ont fait remarquer, ils n'auraient probablement pas cru non plus. Mais Dieu a voulu que le seul témoignage de Paul soit suffisant. Et tout le message de l'Évangile est présent. Et Paul apporte des preuves de sa propre expérience. Il est lui-même témoin. Et de toute façon, il le voit, cette transformation-là, devant leurs yeux. Un homme qui ne sert plus la cause des Juifs, mais qui sert la cause des chrétiens. Et pourtant, ils vont refuser d'entendre, il semble. Donc, c'est le troisième aspect du témoignage. Non seulement le témoignage doit être personnel, doit être centré sur Jésus, mais doit aussi interpeller ceux qui entendent. pour les inviter à croire. Donc, notre témoignage va faire en sorte soit que les gens vont être sauvés en croyant Jésus ou vont être condamnés en le rejetant. Et lorsqu'ils se retrouveront devant Dieu au jour du jugement, même seul ce point-là est suffisant pour qu'ils soient condamnés s'ils ont rejeté la parole du Seigneur. Donc, ils ne le réalisaient pas ce jour-là, peut-être, là, le roi, le gouverneur, mais même s'ils pensaient être en train de passer Paul en interrogatoire, c'est eux qui étaient finalement auditionnés par Dieu. C'est eux qui passaient en jugement devant Dieu. Et ils se condamnaient eux-mêmes en rejetant la vérité. C'est eux qui passaient en tribunal. Et ils vont lui rendre des comptes au jour du jugement. Et ils seront déclarés coupables si, le texte ne le dit pas, mais selon les historiens, il ne semble pas que le roi Hérode Agrippa se soit converti, ni Festus. Mais bon, ça c'est entre eux et Dieu, on ne sait pas. Mais si ils sont morts sans avoir mis leur foi en Jésus, ils vont rendre compte de cette fameuse journée où ils ont entendu Paul leur présenter l'Évangile. Ils vont rendre compte au jour du jugement. Mais la preuve que ce témoignage-là les visait personnellement, c'est que Festus, tout à coup, se sentait mal à l'aise. Et ça a été le premier à déclarer à voix haute, « T'es fou, Paul! Tes grandes connaissances, ton érudition, là, sont en train de te pousser à la folie. » On dirait comme un savant fou. Mais pourquoi il dit ça? C'est parce que tout à coup, il réalise que Paul n'est plus en train de se défendre, il est en train de leur prêcher la vérité, puis de les pousser à prendre une décision. Mais eux, ce n'était pas ça leur plan. Ils ne voulaient pas être forcés de décider là, s'ils allaient accepter le message de Paul ou pas. Là. Puis là, ils étaient acculés au pied du mur, comme souvent Jésus le faisait avec les foules. Là. Il les invitait personnellement, et Festus était mal à l'aise. Donc, il traite Paul de fou, mais Paul répond, « Mais mes paroles, ce sont la vérité, et elles sont pleines de bon sens. » Pour dire que Paul dit des folies, il faudrait qu'il y ait une contradiction, quelque chose d'illogique, quelque chose d'irraisonnable. Pourtant, l'Évangile est très raisonnable, très logique, très dans le bon sens. Il y a plusieurs aspects de l'Évangile, oui, qui dépassent notre compréhension, qui échappent à ce qu'on est capable de mesurer par nos sens et qu'on est capable d'évaluer par notre raison. Mais même si ça nous dépasse, ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est fou. Ça veut simplement dire que c'est plus grand que nous. Notre raison est limitée. Mais pourquoi est-ce qu'il traite Paul de fou? C'est certainement par rapport à ce que Paul vient de dire par rapport à Jésus. Que Jésus est mort. Et ce qu'il sous-entend ici, c'est que Jésus est mort volontairement. C'était prévu dans le plan de Dieu qu'il viendrait souffrir pour nous, donner sa vie volontairement. La Festus, il dit, voyons, t'es fou. Un homme comme cela, là, qui avait des foules qui le suivaient, se serait sacrifié volontairement. Et en plus, tu me dis qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie. Il ne peut pas l'accepter. Mais c'est ce que Paul va dire hein, dans 1 Corinthiens 1, 23. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pour Festus, c'était une folie, puisqu'il était païen. Mais pourtant, ce sont des faits véritables et des faits vérifiables dont parle Paul ici. Il y a une foule de témoins qui ont vu Jésus donner sa vie, qu'il l'a même annoncé à plusieurs reprises avant qu'il meure, qu'il venait donner sa vie. Et il y a une foule de témoins qui l'ont vu vivant de leurs propres yeux, qui ont touché, qui ont mangé avec lui après sa mort, qui l'ont vu ressusciter, qui peuvent en témoigner. Ce sont des faits que toute la population a su. Ça ne veut pas dire que tous y ont cru, mais c'est des faits véritables et vérifiables, avec une foule de témoins, ce qui est très loin d'être la même situation que les accusations de Paul, où il n'y a aucun témoin des fausses accusations. Ici, ce qu'on dit à propos de Jésus, ça ne s'est pas passé en cachette, ça s'est passé de manière ouverte devant toute la population. Et c'est ce que Paul dit. Il explique à Festus que s'il est prêt dans sa défense à parler de choses qui semblent si incroyables, c'est parce qu'il est en train de s'adresser au roi Agrippa. Et Agrippa est un juif qui croit aux promesses de l'Ancien Testament, donc il croit que Dieu peut ressusciter les morts. Il l'a promis. Il a promis qu'un jour, il enverrait son serviteur souffrant dans Ésaïe. Et dans Ésaïe 53, on sait que ce serviteur-là va mourir, va porter nos peines. Mais qu'après même avoir été mort, il va voir une descendance, donc il va revenir à la vie. Tout cela avait été prophétisé. C'est pour ça que Paul revient maintenant à Agrippa pour lui dire, « Crois-tu aux prophéties? Crois-tu aux prophètes? Je sais que tu y crois. » Donc, il interpelle le roi directement, personnellement. Et si le roi répond à cela, il est obligé, là, il va embarquer finalement dans la réflexion que Paul veut le conduire, puis il ne veut pas aller là. C'est pour ça qu'il détourne la question tout de suite en disant « Encore un peu et tu vas me persuader d'être un chrétien ?» Ce n'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'Agrippa veut dire par là. Est-ce que c'était une bonne chose ou c'était de l'ironie, de la moquerie? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a dit ça pour éviter la question. Parce qu'il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu s'il croyait au prophète. Il a détourné la question pour dire « Tu étais en train de vouloir me convertir en chrétien ?» Peut-être qu'il voulait dire par là, ça ne prend pas si peu de paroles pour me convertir. Là. Pense pas que tu es en train de me persuader. Donc, finalement, il ne révèle pas s'il croit que Jésus est réellement l'accomplissement des prophéties, que Jésus s'est réellement sacrifié et qu'il est réellement ressuscité. Mais de toute façon, Agrippa a pris position là. Il ne veut pas savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il ne veut pas en débattre. Il s'est endurci. Et même s'il pouvait croire que c'était vrai, qu'il y ait des témoins qui ont dit que Jésus était vraiment ressuscité, il ne veut pas que ça change quoi que ce soit dans sa vie. Il veut maintenir une distance par rapport à cette vérité-là. Donc, Paul revient à la charge quand il voit ça, puis là, il s'adresse à toute l'assemblée qui est présente. « Je souhaite que vous soyez tous comme moi. Non seulement toi, roi Agrippa, je souhaite que tu deviennes un chrétien comme moi, un saint, mais vous tous. » Sauf, bien sûr, d'être un prisonnier comme moi, je ne vous le souhaite pas, mais je souhaite que vous soyez tous comme moi. C'est comme s'il leur disait, « Avant de me convertir, je ne savais pas encore, mais mon état maintenant est infiniment supérieur et je ne veux pas revenir en arrière et je vous le souhaite, ce bonheur. C'est supérieur, même malgré les chaînes, je suis prêt à rester chrétien, même si je devais être emprisonné et même si je devais mourir. » En entendant ça, ils se retirent tous pour délibérer et ils concluent, comme Festus avant eux, que Paul est innocent et qu'il aurait pu être libéré finalement s'il n'en avait pas appelé à César. Et c'est probablement ce qu'Agrippa va conseiller à Festus d'écrire dans la lettre, que tous ceux qui l'ont passé en interrogatoire ont vu qu'il était innocent et si ça ne tenait que d'eux, il l'aurait libéré. Mais que s'il l'envoie à Rome, s'ils osent importuner l'empereur avec cela, c'est parce que c'est Paul qui l'a demandé. Et finalement, ils n'ont aucun chef d'accusation contre lui. C'est probablement ça qu'ils ont écrit parce que ça explique pourquoi que Paul va recevoir un si bon accueil à Rome. Donc, c'est bon, on voit que Dieu prépare toutes les étapes aussi pour que Paul, en arrivant à Rome, puisse évangéliser ouvertement, sans entrave. Mais même s'ils disent que Paul est innocent, on voit dans leur discussion qu'ils évitent de parler du contenu du message-là. Ils ne veulent pas que ça devienne personnel. Ils préfèrent boucher leurs oreilles, fermer leurs yeux, endurcir leur cœur. Pourtant, c'était une invitation personnelle qu'ils ont tous reçue. Donc, c'était suffisant, selon Dieu, on peut lui faire confiance, c'était suffisant pour sauver ces gens-là, le message que Paul leur a présenté. Et son témoignage d'une vie transformée était un miracle sous leurs yeux, le résultat d'une opération miraculeuse du Saint-Esprit, et c'était suffisant. Dieu n'a pas besoin de faire de grands miracles, de phénomènes surnaturels pour que les gens croient. Il peut le faire, mais soyons sûrs que notre témoignage suffit. Si nous témoignons de manière honnête, correcte, nous présentons Jésus, c'est suffisant. C'est la conclusion dans l'Évangile de Jean. Si vous avez déjà lu l'Évangile de Jean, tout le long de l'Évangile, l'apôtre s'efforce de montrer les grands miracles que Jésus a faits, les signes, et de voir des gens qui se tournent vers lui et qui croient, mais d'autres qui ne croient pas, des gens qui croient à la parole de Jésus. Il explique tout cela. Puis, même parmi les 12 apôtres, bien, il en restait seulement 11 après que Judas a trahi Jésus. Mais après que Jésus soit ressuscité, les apôtres finalement, on cru à la parole de Jésus, sauf Thomas. Vous vous souvenez, hein? Thomas lui a dit, « Si je ne le vois pas de mes yeux, si je ne peux pas toucher là, son côté, là, si je ne peux pas voir les marques dans ses mains, je ne croirai pas. Désolé, ça me prend des preuves tangibles. » Et on lit à la fin de l'Évangile de Jean, dans Jean 20, 28, « Thomas lui répondit, ben, lorsque Thomas s'aperçoit que c'est vraiment Jésus qui est devant lui, il répond, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Enfin, il a cru. Mais Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et ici, l'apôtre Jean prépare le terrain, en fait, pour la conclusion qui suit. Pour nous, les auditeurs, on n'a pas vu Jésus, on n'a pas pu toucher. On n'a pas pu voir la marque sur son côté, on n'a pas pu voir les mains, les trous dans ses mains. Mais est-ce qu'on peut quand même être heureux de croire? Oui, Jésus dit « heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient ». Et la conclusion de Jean, c'est Jésus a fait en présence de ses disciples, encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont même pas écrits dans ce livre. Mais tout ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Même si vous ne le voyez pas de vos yeux, même si vous n'avez pas été témoin oculaire de tous ces miracles-là, on vous le rapporte pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, notre témoignage, quand on rapporte aux gens ce que Jésus a fait dans notre vie, comment il, par son œuvre, on peut être sauvé, c'est suffisant et Dieu invite les gens à croire, basé sur ce témoignage-là. Donc, ne croyez pas que votre témoignage n'est pas suffisant pour que Dieu sauve ceux qui l'entendent. Mais pour cela, il faut quand même que les trois aspects soient présents dans votre témoignage. Il faut que vous puissiez présenter votre conversion. Il faut que vous soyez vous-même comme une preuve vivante de l'œuvre de Dieu dans votre cœur, que votre cœur a été transformé. C'est en soi un miracle, mais on voit toute l'importance d'avoir une bonne réputation auprès de ceux qui ne croient pas. Est-ce que les gens, lorsqu'ils vous voient, si vous dites être chrétien, est-ce qu'ils peuvent voir une différence entre vous et des non-croyants? Ou s'ils vous ont connu avant votre conversion, avant votre baptême, est-ce qu'ils peuvent voir une différence? Est-ce qu'ils peuvent voir une vie transformée? C'est pour ça que c'est si important lorsqu'on est un véritable serviteur du Seigneur, qu'on veut servir dans l'Église comme diacre, diaconesse, comme ancien. C'est l'un des critères. On lit dans 1 Timothée 3. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit. Qu'il soit respectable, éloigné de la duplicité, donc éloigné du double langage, de l'hypocrisie. Éloigné des excès de vin, donc de vivre dans toutes sortes de formes de débauche. Et éloigné des gains honteux, donc de la malhonnêteté, du jeu de hasard pour gagner de l'argent, ou de toutes les passe-croches qu'on connaît tous des gens qui sont là-dedans, mais un chrétien devrait être irréprochable dans tous ces domaines. Pour qu'il puisse dire « Je suis croyant, avant je pratiquais des œuvres mauvaises, mais Dieu transforme mon cœur pour que je pratique des œuvres dignes de la repentance. » Dire ça en toute humilité parce que toute la gloire revient à Dieu de cette transformation. Deuxièmement, votre témoignage doit être centré sur Jésus. Si c'est seulement un témoignage des bienfaits que vous apporte le fait d'être chrétien, ce n'est pas un témoignage. Ça doit être centré sur l'œuvre que Jésus a faite. Insister que les gens, s'ils peuvent espérer être sauvés, voir leur pardon, leur péché pardonné, pouvoir ressusciter après leur mort, ou même que si Jésus revient avant leur mort, qu'il soit compté parmi les élus, parmi son peuple, s'ils peuvent être sauvés, c'est par la foi en Jésus seul. Et cette foi-là, s'ils y croient vraiment, ils vont se convertir à Jésus, ils vont faire de Jésus leur Seigneur, et ils vont se repentir. Donc, c'est un appel à la repentance, un engagement sincère à devenir esclave de Jésus. Puis, troisièmement, c'est un appel qui est personnel. Ça ne peut pas être un témoignage qui est seulement impersonnel comme ça, où on raconte. Les gens sont invités à croire. Si on n'arrive pas à faire une invitation, comme Paul l'a fait pour Festus, pour le roi Agrippa, pour tous ceux qui l'entendaient, il les a interpellés personnellement. Il les a tous invités à être comme lui, à devenir chrétien. Si on ne fait pas cela, on n'a pas terminé la boucle. On n'a pas vraiment témoigné. Romains 10, 14 dit, « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? » Ils doivent en entendre parler personnellement. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas des prédicateurs? Le prédicateur, c'est celui qui appelle les gens à prendre une décision. Donc, que Dieu continue de nous transformer chacun de nous, même si on est compté parmi les saints, on sait bien humblement qu'on n'est pas encore saint dans notre conduite. On vit cela, et Dieu continue cette œuvre de sanctification dans nos vies pour nous rendre de plus en plus aptes à témoigner. Que nos œuvres soient de plus en plus dignes de la repentance et que nos vies soient capables d'être efficaces pour l'Évangile. Donc, que Dieu continue de nous transformer, que nos œuvres soient dignes de la repentance et qu'il rende notre témoignage efficace par son Saint-Esprit. Amen.